Bienvenue dans Chanson de l'île présentée par Alain Grand.
Bonsoir, élection présidentielle au Sénégal. Abdoulaye Wade, président sortant, reconnaît sa défaite et félicite Macky Sall, le nouveau président élu. Pendant ce temps au Mali, on assiste à un coup d'état militaire à quelques semaines des élections présidentielles. Quelle analyse faire de l'état de la démocratie en Afrique? Pour en parler, nous recevons comme invité professeur Kibangu Kalala, professeur de droit public et président du parti politique Notre Beau Pays, NBP. Professeur Kibangu, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Auguste Mampouya, professeur de droit public et président du parti politique Rassemblement des démocrates pour la rupture et le renouveau RADER. Professeur Mampouya, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Pierre Virgence, professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Boutembois en RDC. La réalisation me signale que nous allons l'avoir dans un tout petit moment. Non, il est déjà là, professeur Virgence, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, merci d'être très nombreux à réagir. Déjà, c'est le cas de Teddy Tendi Longi, de Bukavu Kusivu. Le sort d'Abdoulaye Wade doit servir d'exemple aux dirigeants africains qui veulent s'éterniser au pouvoir en modifiant la constitution de leur pays, qu'ils sachent que le modèle sénégalais a édifié tous les Africains. Carlos Venga de Boutembo Nord-Kivu, il est absurde de parler de démocratie en Afrique, car elle est souvent sous tutelle étrangère, moins autoritaire que les armes et sujette des appétits du pouvoir. Du reste, importer la démocratie ne semble pas rimer avec la tendance monarchique de la plupart de nos cultures africaines. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocap.net.
Vous le savez, Macky Sall a remporté le 25 mars l'élection présidentielle au Sénégal avec 65,08% des suffrages, en battant au second tour son rival Abdoulaye Wade, 34,20% des sources officielles. C'est la fin de 12 ans de pouvoir pour le président sortant qui a reconnu sa défaite et a appelé son adversaire pour le féliciter. Pour la CENA, la Commission électorale nationale autonome, c'est une preuve de la maturité du peuple sénégalais et de la classe politique du pays. Le nouvel élu a également réagi pour exprimer sa satisfaction avec humilité. Le grand vainqueur du second tour de l'élection présidentielle de dimanche dernier est le peuple sénégalais, a affirmé Macky Sall. Il a rendu hommage à ceux qui ont voté pour lui et salué ceux qui ont porté leur foi sur l'autre candidat. On écoute un extrait de son discours recueilli par nos confrères de Radio France Internationale.
En ce 25 mars 2012, après la journée mémorable du 26 mai, le peuple sénégalais s'est exprimé dans les urnes. À l'intérieur de nos frontières comme à l'étranger, les électeurs ont voté dans le calme et la sérénité. Leur maturité est un motif de fierté pour chacun de nous. Un résultat est sorti des urnes. Le grand vainqueur reste le peuple sénégalais. Nous avons prouvé à la face du monde que notre démocratie est majeure. Ce soir, les Français vont tout d'abord aux martyrs de la démocratie. Ils ont perdu la vie pour défendre notre constitution et notre démocratie. Paix à leur âme. Je pense aussi à tous nos concitoyens. Je voudrais rendre hommage à tous ceux qui ont voté pour moi, à mes alliés du premier tour et du second tour, mais également à mes compagnons de première heure de l'Alliance pour la République. Je salue également ceux qui ont porté leur choix sur l'autre candidat. Je serai le président de tous les Sénégalais.
Professeur Tibangou Kalala, je rappelle que vous êtes professeur de droit public et président du parti politique Notre Beau Pays, NBP. Je vous propose qu'on commence dans un premier temps par la situation au Sénégal. Ensuite, nous verrons, nous analyserons la situation au Mali. Professeur, comment vous percevez ce qui s'est passé au Sénégal?
Oui, merci Alain Young. Mais d'abord, je tiens d'abord à saluer le professeur Bia, que je n'ai pas vu depuis un certain temps. J'espère que nous allons nous rencontrer bientôt pour discuter un peu. Eh bien, pour répondre à votre question, qui s'est passé au Sénégal, me fait penser à ce que l'ancien président français, François Mitterrand, avait dit à propos de la liberté et de la démocratie. François Mitterrand avait dit que la liberté et la démocratie sont un combat de tous les jours, de tous les instants. Et que ceux qui aiment la liberté et la démocratie ne doivent jamais s'endormir. Et donc il faut se battre. Le peuple sénégalais s'est battu de manière courageuse et responsable. Il a contesté certaines pratiques, il a contesté la manière dont le président Wade envisageait l'avenir du Sénégal. Eh bien, ils se sont mobilisés, il y a eu de très bonnes élections. Et jusqu'à présent, je n'ai pas entendu une seule voix au Sénégal qui prétend que les élections ont été truquées ou fraudées. Le vaincu a accepté de manière responsable et digne sa défaite, a remercié et félicité son adversaire qui a été son premier ministre, et même président de l'Assemblée nationale et à tous ses postes. C'est Zawad qui avait placé Macky Sall. Eh bien, je pense que ce qui vient de se passer au Sénégal doit servir de modèle à tous les autres pays africains, à tous les autres peuples africains. Nous avons besoin sur notre continent de démocraties vivantes, apaisées, dirigées par des hommes d'État responsables et dignes de ce nom, et qui savent où ils doivent conduire leur peuple. Et donc, je ne peux que féliciter le peuple sénégalais qui a tout fait pour que la démocratie sénégalaise ne puisse pas dérailler, et c'est très bien comme ça, et c'est un bon exemple à suivre. Voilà ce que je peux dire.
Alors, professeur, les Sénégalais ont-ils voté pour Macky Sall ou contre Abdoulaye Wade?
Écoutez, n'étant pas moi-même sur place au Sénégal, je ne peux pas me prononcer sur le sujet, mais j'ai appris par la voix des médias que ce qui est arrivé, c'est que le peuple sénégalais a exprimé un certain ras-le-bol par rapport au régime Abdoulaye Wade, et qu'ils ont voté plutôt contre Abdoulaye Wade plutôt que pour Macky Sall. Mais là, c'est un problème de commentaire, hein, donc je ne peux pas me prononcer de manière affirmative sur cette question-là.
Professeur, on sait aussi, hein, tout ce qu'on peut appeler entre guillemets les phrases du président Wade. Il voulait modifier la constitution pratiquement 11 fois en 12 ans de pouvoir. Il a tenté de monarchiser le pouvoir, comme on l'a dit à un certain moment, en tentant de préparer la place pour son fils. N'est-il pas en train de payer un peu toutes ces phrases-là?
Oui, c'est vrai. Il y a en 2000, lorsque Abdoulaye Wade a été élu président de la République sénégalaise en remplacement d'Abdou Diouf, il avait suscité beaucoup d'espoir. L'espoir des changements. D'ailleurs, le mot d'ordre de ralliement de sa campagne, c'était Soki, donc le changement. Mais vieillissant et avec l'usure du pouvoir, bon, le jeu, par respect, d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'appelle au Sénégal, par respect, le jeu a peut-être tenté à un certain moment de préparer une succession dynastique, comme on a vu des exemples dans certains pays africains. Mais là, le peuple sénégalais n'a pas voulu accepter cela. Et s'est opposé de manière courageuse et responsable. Mais maintenant, toutes ces tentatives de vouloir modifier la Constitution, il y a eu des débats à ce sujet. Finalement, la Cour constitutionnelle du Sénégal lui a donné raison en disant qu'écoutez, pour le troisième mandat, il n'y a pas d'incompatibilité avec les dispositions constitutionnelles, il pouvait briguer le troisième mandat. Bon, mais dès que la plus haute juridiction sénégalaise compétente en la matière a estimé qu'il n'y avait pas de problème, eh bien, on ne peut que s'incliner. Mais je pense que, avec Abdoulaye, je crois qu'il a voulu mener un combat de trop. À 86 ans ou 87 ans, je crois que on le voit d'ailleurs, même à la télévision, il est très très fatigué physiquement. On ne voit pas comment il allait même gérer le Sénégal de manière efficace, en étant diminué physiquement avec tout ce qu'on a vu. Et même s'il à un moment donné, il disait écoutez, donnez-moi ce mandat, mais je veux faire seulement 3 ans. Mais je crois que les Sénégalais n'ont pas été pris au piège. Je crois qu'ils ont aider tout simplement à prendre sa retraite le plus vite possible.
Professeur Auguste Mampouya, vous êtes professeur de droit public et président du parti politique Rassemblement des démocrates pour la rupture et le renouveau RADER. Professeur, comment vous analysez cette élection présidentielle au Sénégal?
Merci bien, Alain. Je profite de pour rendre à Jean, professeur Chibang, son salut et mon souhait aussi de rapidement pour. Échange. Je salue également Pierre à Liège. Nous avons eu des moments assez plaisants de travail surtout et on a fait connaissance entre nous. Bon, écoutez, ce qui s'est passé au Sénégal est exemplaire à plus d'un titre et doit être exemplaire pour l'ensemble de nos États, non seulement pour les pays, c'est-à-dire l'État, les gouvernants, les dirigeants, la classe politique, mais aussi pour le peuple. Ça montre qu'il y a maturité et culture politique et démocratique généralisée, universelle, on pourrait dire, au Sénégal, qui touche aussi bien les couches de l'élite que la population. On voit, par exemple, le mouvement Yanamar et tout ça, c'est un mouvement populaire qui n'est pas dirigé par des intellectuels ni des élites de haute volée. Et ce mouvement a été pour beaucoup dans l'évolution des choses au Sénégal, tout comme la société civile au sein du mouvement du 23 juin. Et on a vu que les partis politiques ont emboîté le pas, mais n'ont pas pris l'initiative. On voit bien que la maturité et la culture politique est assez partagée au sein de ce peuple. Mais en même temps, l'autre exemplarité, c'est celle de la manière dont la commission électorale a fait son travail au Sénégal. Je crois que le professeur Chouan a insisté tout à l'heure pour dire qu'il n'y avait pas de contestation. Cela est dû certes à la qualité de l'élection. Parce que tout simplement, elle a été bien organisée. Cela va de pair. C'est parce qu'elle était tellement bien organisée qu'il n'y avait pas lieu de contester, il n'y avait pas à contester, qu'il n'y a pas eu de contestation. Je suis certain que les membres de notre CENI, dimanche soir, ils ont dû fermer leur télévision pour ne pas voir ce qui se passait au Sénégal. Tellement c'était beau, tous ceux qui ont suivi, notamment sur les deux chaînes sénégalaises que nous captons ici. Je crois qu'ils ont dû fermer pour ne pas se faire mal. Cela dit, je pense que nous avons là la preuve que la démocratie, contrairement à ce qu'un de nos frères qui avait envoyé le courriel tout à l'heure disait, la démocratie est une valeur, est un bien immatériel, universel, auquel doivent tirer tous les peuples. Il n'y a pas de démocratie pour l'Occident et puis la barbarie pour les autres peuples, notamment les Africains. Ce que François Mitterrand disait et que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est également valeur d'universalité, parce que les peuples sont les mêmes, ils sont faits d'hommes, de chair et d'os. Quand on nous dit que le pouvoir en Afrique est monarchique, mais notre frère dit que, ou il ne sait pas, que dans le monde entier, partout, de tout temps, le pouvoir a commencé par être un pouvoir monarchique. Et même la monarchie absolue, la dictature, on en a connu en Afrique. Mais les peuples de ces pays-là ont secoué les dictatures et ont mis en place la démocratie. C'est ce qui s'est passé en Amérique, c'est ce qui s'est passé en France. Donc, n'a pas d'extension africaine, tropicale. La démocratie doit être prise telle qu'elle, avec toutes ses valeurs. Il n'y a pas à toucher quoi que ce soit. Les mécanismes de mise en œuvre de la démocratie peuvent changer. Même au sein des pays occidentaux, ces mécanismes ne sont pas partout les mêmes.
Professeur.
Donc, voilà, on peut avoir des mécanismes différents, mais mettant en œuvre les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, communes à tous les peuples du monde.
Professeur, comment vous expliquez le fait, par exemple, qu'Abdoulaye Wade, ayant passé 26 ans dans l'opposition, 12 ans au pouvoir, puisse finalement tomber dans le fait de vouloir modifier la constitution jusqu'à s'éterniser au pouvoir? Comment vous pouvez expliquer ça?
Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur là-dessus. Hein. Il n'a pas modifié la constitution dans le sens de multiplier le nombre de ses mandats. Au contraire, sous sa constitution, c'est sous son règne, si on peut dire, que la constitution a limité le nombre de mandats. Mais seulement, il y a eu une interprétation divergente. Lui, il croyait, il disait, et la Cour lui avait donné raison. Bon, on peut discuter là-dessus. Il disait que la modification qui limitait le nombre de mandats ne concernait pas le mandat au cours duquel la révision constitutionnelle avait eu lieu. Et que ce serait pour l'avenir. Pour les autres, c'était d'application immédiate. Voilà la divergence qu'il y avait eu, et la Cour constitutionnelle a donné raison à Abdoulaye Wade et choisi plutôt son interprétation. Maintenant, vous savez, 26 ans d'opposition, 12 ans de pouvoir, mais c'est cela, 12 ans de pouvoir, c'est beaucoup, ça suffit. Et avec son âge, et surtout, quand il a fait privilégier cette interprétation qui lui donnait droit à un troisième mandat, les gens en ont eu ras-le-bol, voilà le problème. Les gens en ont eu marre et ils ont dit non, c'est trop. Et d'ailleurs, quand on entendait sur les trottoirs, les radio-trottoirs, le micro-trottoir plutôt, on entendait les gens dire bon, écoutez, monsieur le président, ça va, ça suffit, nous voulons que ça change.
Merci.
Nous ne voulons plus vous voir, nous voulons voir d'autres têtes, etc. C'est comme ça les choses.
Merci.
Donc, en même temps, il y a eu cette tentative de monarchisation du pouvoir. Et les Sénégalais, qui sont tout de même un peuple qui est au contact du chef politique depuis des siècles, il ne faut pas oublier ça. Le Sénégal est au contact du chef politique depuis très longtemps, et même bien avant la période de la 4e République française, où il y a eu des ministres et des députés
Merci.
Sénégalais et d'autres d'Afrique noire.
Merci.
Mais bien avant déjà, il y avait des intellectuels sénégalais qui siégeaient au niveau de la France comme députés, comme conseillers dans des institutions de nature législative, etc.
Merci, professeur. Je redonne la parole tout à l'heure, le temps doit passer, au professeur Pierre Virgence, professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Boutembo en RDC. Professeur, quelle est votre analyse à ce niveau?
D'abord, je voulais remettre aussi mon bonjour aux deux collègues qui sont là, et spécialement, évidemment, à Augustin Brouillard, avec qui, comme il dit, nous avons l'occasion de travailler en son temps. Et j'avais envie de dire une série de choses que le professeur Mambouya a déjà dites, c'est-à-dire qu'effectivement, l'Afrique n'est pas un continent condamné à la monarchie. On a vu ça à un moment donné de l'Amérique latine, on a vu ça à un moment donné de l'Asie. Ces pays, ces continents sont en train maintenant de faire petit à petit, et avec chaque pays à son rythme, effectivement, l'apprentissage de la démocratie, qui n'est pas un apprentissage facile, et qui est un apprentissage qui se fait à la fois par les hommes et par les institutions. Le professeur André a bien fait de rappeler que c'est un mouvement populaire qui a sauvegardé les acquis républicains au Sénégal, et c'est important aussi de rappeler pour les auditeurs que le Sénégal est donc le premier pays, d'Afrique subsaharienne, qui voit son quatrième président depuis l'indépendance élu par la population. Ça, c'est quand même significatif que aussi bien Léopold Sédar Senghor que Abdou Diouf, que Abdoulaye Wade, que maintenant Macky Sall sont donc des élus du peuple. Et ça veut dire que le Sénégal représente un pôle de démocratie particulier en Afrique, mais en même temps, on sait que cette volonté du peuple de voir la démocratie respectée, c'est une volonté qui est présente dans d'autres pays, et je dirais qu'il y a l'autre en grand endroit en Afrique où la démocratie existe, c'est là où, je dirais, Nelson Mandela l'a inventé, en Afrique du Sud, et où, depuis que Nelson Mandela a imposé le principe « un homme, une voix » en 1995, eh bien, il y a des élections avec des présidents qui sont élus au suffrage universel aussi. Donc l'Afrique n'est pas du tout un continent qui serait condamné aux monarchies, aux autoritarismes ou aux dictatures. C'est un continent qui, comme tous les autres, est constitué de gens qui essayent, pour certains, de garder le pouvoir pour eux, et pour d'autres, de faire partager le pouvoir aux institutions et aux peuples. Et là, je pense que c'est effectivement une leçon importante à tirer, c'est que le Sénégal est un pôle particulier, il a son histoire à lui, bien entendu, qui est irréductible aux pays voisins, mais en même temps, il sert d'exemple, comme l'Afrique du Sud sert aussi d'exemple pour l'Afrique, montrant donc qu'il y a moyen d'organiser des élections fiables et dont les résultats, même s'ils mettent à mal celui qui est au pouvoir, doivent être respectés par les gens qui sont au pouvoir. Et ça, c'est effectivement la grande leçon de la démocratie, c'est quand celui qui est au pouvoir est battu et qu'il accepte sa défaite. Ça s'est passé en Inde, qui est aussi un pays dont on disait en 1947 qu'il n'allait pas pouvoir fonctionner de façon réellement démocratique. Ça s'est passé en Inde, le parti du Congrès a plusieurs fois perdu les élections, il les a regagnées aux élections suivantes, mais il avait à chaque fois accepté sa défaite. Et la démocratie, c'est quand on se dit que les institutions qui gèrent le pays sont plus importantes que la victoire à un moment donné. Et ça, je dirais, les autres pays d'Afrique vont pouvoir s'en inspirer, malgré les tentatives, hein, vous avez évoqué les tentations, je dirais, autoritaristes de Abdoulaye Wade. Je dirais, oui, bien entendu, chaque homme qui est au pouvoir, à un moment donné, se prend pour le centre du monde, devient un peu mégalomane. C'est normal quand on a autant de pouvoir. Et donc, ce sont bien les institutions qui doivent empêcher ces dérives-là. Et ça, le respect des institutions, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se met en place lentement. L'Afrique, moi, je pense, est pour le moment plutôt en train de voir des exemples intéressants pour elle. On a craint le grand dérapage avec Abdoulaye Wade. On voit que les institutions et le peuple sénégalais ont été plus sages que son ancien dirigeant, mais il a été à un moment donné.
Professeur Virgence, il y a un président africain qui avait déclaré qu'on n'organise pas les élections africaines pour les perdre, et décidément, ce principe vient d'être démenti.
Tout à fait. Parce qu'effectivement, si on n'organise pas des élections pour les perdre, ça veut dire qu'en fait, on ne veut pas organiser des élections. On veut organiser une réélection. Et là, évidemment, c'est, je dirais, la grande différence entre, je vais dire pour simplifier, les autoritarismes qui veulent se reproduire et qui veulent que les élections soient un instrument pour relégitimer leur pouvoir, et les vrais systèmes démocratiques où on organise des élections, mais ce n'est pas le dirigeant qui organise les élections, ce sont les institutions qui les organisent. Et c'est ça la grande différence entre cette phrase et la phrase d'un démocrate, c'est qu'un démocrate, lui, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le président qui organise les élections, c'est l'ensemble du système, c'est l'ensemble des institutions qui imposent la logique démocratique et qui impose l'organisation des élections. Et donc, quand on est le gouvernement et quand on organise les élections pour les gagner, on est effectivement dans un système autoritaire. Quand on organise les élections et que le « on » est cette fois-là l'ensemble des institutions légales qui veulent effectivement vérifier quelle est l'opinion du peuple, alors on organise les élections pour que le meilleur gagne.
Merci, professeur. L'élection présidentielle organisée au Sénégal est un bel exemple de démocratie où l'alternance politique à trois reprises est une leçon pour d'autres pays africains. C'est l'avis d'Henri Thomas Lokondo Yoka, député national de la majorité après l'élection de Macky Sall à la tête du Sénégal. Henri Thomas Lokondo, micro de Richard Junior Kamonga.
je suis très content de l'élection sénégalaise parce que c'est la troisième fois que le Sénégal nous donne de leçons. Vous savez, la première fois c'était avec le départ du président Léopold Sédar Senghor quand il avait laissé le pouvoir à Diouf, et la deuxième fois c'était quand Diouf a été battu, il est parti démocratiquement. Et voilà la troisième fois que nous vivons la même chose. C'est un exemple à suivre, c'est beau à voir et à entendre. Le président Ouad a perdu le pouvoir, à mon sens, à cause du clientélisme, de l'intolérance, du népotisme, et en fait, il a basculé dans l'autoritarisme, disons même dans le totalitarisme, parce que moi, des démocrates que nous avons connus dans l'opposition, a fait un visage extraordinaire pour devenir une équipe de spots éclairés. Vous savez que pendant 12 ans de son règne, il a modifié 11 fois la Constitution, simplement pour se maintenir au pouvoir. Il a pensé qu'il était déficient au Sénégal, en voulant même, dans un élan de dévotion monarchique, faire doctorine son fils.
Du côté de l'opposition, l'Union pour la nation congolaise estime que la présidentielle sénégalaise est une preuve éloquente de maturité du peuple de ce pays. Un bel exemple de démocratie pure, en croire le député national Claudel André Loubaya, premier secrétaire général de l'UNC. On l'écoute au micro d'Innocent Olinga.
Ce qui s'est passé au Sénégal est une nouvelle alternance qui s'ouvre, preuve de maturité de ce peuple, preuve que nous avons affaire à une démocratie dont les institutions fonctionnent, une démocratie au sein de laquelle la société civile et le mouvement citoyen jouent pleinement leur rôle de surveillant de l'action publique, une démocratie tout à fait mûre, tout à fait solide, tout à fait stable et qui nous offre là un bel exemple, pas simplement pour le continent africain, mais partout ailleurs dans le monde. C'est un motif de fierté pour les démocrates africains que nous sommes.
Oui, mais au Sénégal, on a vu l'opposition s'est liée derrière un seul candidat, mais ici, ça posait problème.
Ça n'a pas posé problème, c'était le contexte. Et je pense que l'avenir nous permettra de tirer des leçons de ce qui vient de se passer au Sénégal.
Professeur Kibangu, vous venez de suivre là quelques réactions de quelques acteurs politiques congolais. Avant d'aborder la situation au Mali, la situation du Mali, professeur, une très brève réaction en ce qui concerne les leçons que la RDC peut tirer de cette élection. Voilà, professeur, nous allons prendre le professeur Mampouya, le temps que la réalisation revoit la ligne du professeur Kibango. Professeur Mampouya, vous pouvez répondre à la question que j'ai posée.
Oui, pour ce qui concerne notre pays, quelles leçons en tirer? Mais la leçon, elle est claire. D'abord, les partis politiques congolais s'organisent pour avoir un contenu, parce qu'ils sont vides. Ils sont vides. Aujourd'hui, les joutes auxquelles on assiste sont des joutes de positionnement. Chacun se dit être le meilleur là-bas, chacun cherche à prendre la place soit de l'autre, soit du voisin, etc. Mais en même temps, il nous propose, vous savez, je vais vous dire une chose, c'est pas une révélation, je crois que les gens n'y ont pas fait attention. Nous sommes allés aux élections sur quelle base? Quel est le parti ou la force politique qui a proposé quelque chose de clair, un bilan et des perspectives à venir? Ou alors une critique et des propositions pour faire face à cette critique, nulle part. Ni l'opposition, qui est partie sans programme commun, sans programme, tout simplement, ça c'est mon point de vue, hein, sans programme, ni la majorité non plus, qui est partie avec comme programme faire élire le président Joseph Kabila. Voilà, il y a déjà cet écueil-là qu'il faut combler. La vacuité des partis politiques congolais est criante et nous ne ferons rien si on continue comme ça parce que le seul enjeu, ce sera le pouvoir. Merci. Que j'arrive, que j'en place l'autre, que j'ai un poste, que j'ai du boulot, que j'ai du travail.
Merci pour le professeur.
Oui.
Permettez que je vous arrête à ce niveau le temps de redonner la parole au professeur Kibangu et nous allons aborder la situation du Mali. Professeur Kibangu, vous avez suivi le professeur Mampouya. Quelles sont pour vous les leçons que l'on devrait, que la RDC devrait tirer de cette élection au Sénégal?
Oui, la première leçon pour moi qu'il faut tirer de cette élection, c'est qu'il faut rappeler à tous les Congolais la définition de la démocratie. Et là, je ne peux que me référer à la définition donnée par le président américain déjà au 19e siècle sur les champs de bataille, le président Abraham Lincoln. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et donc, au Sénégal, le peuple sénégalais, je vais vous donner un exemple, c'est fait qu'un peuple se mobilise, se bat, pour qu'il puisse régner au Sénégal un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et donc, cette leçon-là, elle est très très importante. Mais il y a aussi ce que le professeur Mampoué a dit, il y a une leçon. C'est que l'organisation des élections est très importante dans une démocratie. Et l'institution chargée d'organiser les élections joue un rôle capital. Pourquoi ? Parce que c'est cette institution qui est chargée d'assurer la transmission pacifique du pouvoir d'une génération à une autre, d'un groupe social à un autre groupe social. Et ça doit se faire de manière paisible. Et donc, si, comme nous avons vu le cas dans notre pays, où la transmission du pouvoir d'un groupe à un autre a posé des problèmes en termes d'organisation, c'est vrai qu'on ne peut pas généraliser le cas, si je prends l'exemple des élections législatives. Il y a des députés qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui ont été élus de manière régulière et normale. Des députés sur lesquels la population a porté massivement leur voix. Donc ça, c'est, on ne peut pas généraliser. Mais il y a aussi, au sein de l'Assemblée nationale, un groupe de députés qui ont été élus de manière frauduleuse, qui se sont mis à distribuer de l'argent dans les centres de compilation des résultats pour figurer sur la liste des élus. Et ça pose un problème de la légitimité du pouvoir qu'on veut mettre en place dans un pays. Et donc, et ça c'est très important, il faut qu'on puisse améliorer notre système, notre façon de faire fonctionner notre démocratie, de telle manière que chaque fois qu'il y a une consultation générale de notre peuple pour savoir à qui le peuple va donner maintenant la gestion du pays, il faut que cela se fasse de manière transparente, honnête, de manière à ce que ceux qui vont accéder au pouvoir soient des gens investis de la légitimité populaire et qu'ils puissent être en mesure de représenter notre pays, de le diriger et de faire face à la compétition actuelle qui se trouve dans le monde entier, qu'ils soient des personnalités et des dirigeants crédibles et solides dans leur propre pays, soutenus par leur propre peuple, de manière à ce qu'ils puissent parler d'une voix forte dans le concert de l'action et de manière à défendre de manière correcte les intérêts de notre pays.
Professeur, un mot sur l'attitude ou le comportement de la société civile également.
Oui, ça c'est exact. La démocratie, vous savez, comme le professeur Mampoué a dit, je suis d'accord avec lui, et j'aimerais demander à notre compatriote qui tomberait dans le pessimisme qu'il n'y a pas de raison pour que le peuple congolais puisse vivre dans la barbarie, n'est-ce pas, dans un régime dictatorial, il pourrait être d'autres peuples de la Terre puissent vivre dans un régime démocratique. Il faut savoir que l'humanité, il n'y a aucun exemple dans le monde où un peuple s'est battu pour aller vivre dans une dictature. Les peuples se sont battus pour vivre dans la démocratie, dans un régime fondé sur la liberté. Mais maintenant, c'est chaque peuple qui doit organiser le système démocratique suivant ses propres spécificités nationales, en tenant compte de la structure locale, mais il y a des valeurs universelles qui doivent se retrouver partout.
Merci.
Parmi ces valeurs, il y a aussi la présence d'une société civile vibrante dans la société, dans une communauté.
Merci.
Donc, il ne doit pas être remis seulement entre les mains des acteurs politiques, des partis politiques, etc., mais la société civile joue un rôle important. Merci. On a vu l'exemple au Sénégal, où c'est des gens qui n'étaient pas dans les partis politiques. Le monde associatif, la société civile est très importante pour le renforcement de la paix et de la démocratie dans un pays.
Merci, professeur. Professeur Pierre Virgence, vous donnerez également votre avis sur les leçons à tirer par rapport à la RDC. Mais la semaine dernière déjà, les militaires maliens ont perpétré un coup d'État. Ils affirmaient avoir agi pour faire face, je cite, à l'incapacité du régime du président Mamadou Toumani Touré à gérer la crise au nord du Mali, en proie à une rébellion Touareg et aux activités des groupes islamistes armés. Professeur, d'un côté, on a l'élection présidentielle au Sénégal qui se passe bien, mais de l'autre, on a le coup d'État au Mali. Finalement, l'Afrique est-elle le continent des extrêmes?
Mais c'est pas seulement l'Afrique, hein. Rappelez-vous, enfin, il faut prendre un peu la mesure du temps aussi, hein. En Europe, il y avait encore des dictatures communistes jusqu'en 1989, et jusqu'en 1975, il y avait encore des dictatures d'extrême droite qui étaient les reliquats de l'entre-deux-guerres. Je dirais donc que il n'y a pas que l'Afrique qui subit des tensions et des prises de pouvoir par des militaires, comme d'ailleurs il n'y a pas effectivement dans tous les continents sauf en Afrique des luttes démocratiques. Non, les luttes démocratiques, elles ont lieu partout. Il y a des pays effectivement où ces luttes ont eu lieu il y a plus longtemps, où on a pu créer des institutions plus solides. Et là, on voit bien que effectivement, c'est pas une malédiction africaine. Il y a eu des coups d'État militaires en Amérique latine il y a encore à peine 30 ans. Voilà, il y a eu des coups d'État militaires en Birmanie il y a à peine 5 ans. Donc je veux dire, c'est pas du tout une condamnation africaine. Je dirais que c'est effectivement les militaires maliens qui sont dans une situation vraiment difficile, c'est vrai, et qui estiment que leur pays est dans une situation difficile et qui se disent « Mais comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça ?» Et ils ne croient pas dans le système institutionnel. À notre sens, à nous démocrates qui ne vivons pas ce qu'ils vivent, on se dit à tort, ils se trompent. Et ce qui est intéressant, surtout pour revenir sur la remarque du professeur Sibangu tout à l'heure, c'est que là, la société civile aussi commence à s'organiser. Et c'est un petit peu, moi, la leçon que je voulais en tirer pour la RDC, aussi bien pour le Sénégal que pour le Mali, c'est que la construction de la démocratie ne doit pas venir de la communauté internationale. La construction de la démocratie au Sénégal, c'est l'affaire interne aux Sénégalais. Ce n'est pas la France qui a amené la démocratie au Sénégal, c'est les Sénégalais qui l'ont fabriqué. Ce n'est pas la France qui a amené le coup d'État au Mali. Et ce n'est pas non plus la France qui va rétablir l'ordre réel. L'ordre réel, ce sera quand les Maliens auront réussi à réimposer le système institutionnel aux militaires qui sont en train, à notre sens, pour le moment, de dériver. Et c'est bien à l'intérieur du pays qu'il faut faire confiance et non pas à l'extérieur. Ce n'est pas la communauté internationale qui va fabriquer la démocratie et qui va nettoyer tous les sièges qui sont mal occupés à l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Non, ce sont les institutions congolaises et elles seules qui sont capables de le faire et elles le feront sous la pression du peuple congolais. Et là, il faut bien, c'est une leçon effectivement à tirer, c'est que la démocratie, ça ne se fabrique pas par l'extérieur. Les dictatures, ça peut se fabriquer à l'extérieur, hein. Ça peut s'imposer effectivement par la communauté internationale. Mais la démocratie, ça ne se crée pas de l'extérieur. On l'a vu avec l'effroyable résultat de l'invasion américaine en Irak. On l'a vu avec l'effroyable résultat de l'intervention internationale en Afghanistan. La démocratie, ça ne se fabrique pas de l'extérieur, ça se fabrique de l'intérieur, et les Sénégalais ont montré comment ça se fabrique, et le peuple malien est en train maintenant, en montrant sa résistance, peut-être, de réinventer la démocratie au Mali.
Merci, professeur Pierre Virzens. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Boutembo en RDC. Professeur Auguste Mampouya, il y a des auditeurs qui nous écrivent. Tato Mouteb de Lumbasio Katanga. La démocratie n'est pas seulement une alternance, mais surtout un levier qui donne à l'homme sa dignité. La démocratie doit permettre une bonne gestion et répartition des ressources, faire respecter les droits fondamentaux de l'homme. L'illusion en Afrique est que l'on croit que seules les élections sont l'expression de la démocratie. Denis Moussafiri de Bukavu Sud Kivu, les deux événements démontrent qu'en Afrique, la démocratie n'a pas encore été comprise et acceptée de la même manière par tous les peuples selon les pays. Voilà pourquoi l'alternance pacifique au Sénégal serait un modèle pour les dirigeants qui s'accrochent au pouvoir par la modification de la constitution. Professeur, comment vous analysez la situation au Mali?
D'abord, je donne raison parfaitement aux deux compatriotes qui viennent de vous envoyer ce message, parce que effectivement, ils ont bien compris ce qui se passe au Sénégal, mais en même temps, ils ont compris la quintessence de la démocratie. Ce qui se passe au Mali, je crois que c'est une malheureuse aventure qui, effectivement, au moment où la clarté, la lumière explose à Dakar, vient assombrir un peu les horizons. Cela dit, Pierre Véjean a dit tout à l'heure dans quelle situation militaire et stratégique se trouve l'armée malienne. Est-ce que l'incapacité sur le terrain a poussé certains dirigeants militaires à trouver un bouc émissaire dans le chef du président ATP? ou est-ce que ces gens sont tout simplement contre la démocratie, parce que une alternance était possible dans un mois. C'était prévu. Et maintenant, ils renvoient tout à très très loin. On ne sait pas très bien, c'est pour ça que la communauté internationale exige le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Mais cela dit, ça ne doit pas nous décourager, ça ne doit pas non plus montrer que l'essence de l'homme africain est d'être soumis à des dictatures ou à des régimes militaires. Le prétexte que les militaires maliens ont donné, j'appelle ça prétexte parce que les régimes militaires ont toujours un prétexte qui les justifie, toujours. Tantôt c'est l'incapacité des civils, tantôt c'est le désordre des civils qui ne sont pas disciplinés, tantôt c'est parce qu'il y a des divisions, ils veulent unifier, etc. Ils ont toujours trouvé, on le sait chez nous aussi, hein, on a eu un coup d'état militaire ou deux coups d'état militaires même, sur des prétextes qui sont plus ou moins valables les uns que les autres. C'est pour cela que je pense que la culture de la démocratie doit être ancrée non seulement dans la société civile, dans les élites politiques, mais aussi dans toutes les couches, y compris dans l'armée.
Merci.
C'est la raison pour laquelle toutes les armées du monde, depuis que le droit de l'homme est devenu une discipline universelle, ont l'obligation de former leurs militaires au respect des droits de l'homme,
merci,
au respect des principes démocratiques. Et donc, moi, je crois qu'il y a là un assemblage de facteurs, aussi bien militaires que politiques, et d'inculture de la part de ce capitaine et de ses copains, qui ont abouti à ce résultat.
Merci.
C'est un résultat malheureux, mais les Congolais ne doivent pas, ou les Africains, ne doivent pas croire que ce soit la fin des nations de l'Afrique à toujours remettre les
merci,
choses,
professeur.
Revenir sur le passé,
merci, professeur.
Sur un mauvais passé.
Merci, professeur. Je rappelle que vous êtes professeur de droit public et président du parti politique Rassemblement des démocrates pour la rupture et le renouveau RADER. Et je signale en même temps qu'il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Donc, il va déjà falloir conclure. Professeur Kibangu Kalala, vous êtes professeur de droit public et président du parti Notre Beau Pays. Par rapport à la situation au Sénégal et au Mali, professeur, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que l'émission est également pédagogique.
Oui, monsieur. Je veux d'abord dire un mot en rebondissant sur ce que le professeur Pierre vient de dire à propos des interventions extérieures dans le système de fonctionnement des États africains. Je pense qu'il a totalement raison. Il faut dire aux Africains, en particulier aux Congolais, que la démocratie, c'est nous-mêmes qui devons la construire ici. J'ai lu dans la presse ce matin à Kinshasa qu'il y a certains secteurs de la classe politique congolaise qui affirmaient que le ministre des Affaires étrangères serait venu ici à Kinshasa pour légitimer le pouvoir en place. Je pense que ce type de déclaration montre qu'on est encore des enfants politiques. Et donc c'est le peuple congolais lui-même qui doit légitimer ses propres dirigeants et ce n'est pas une autorité étrangère, même d'un pays ami, qui doit venir ici pour légitimer les autorités ou les institutions. Donc il faut éviter de se comporter comme des enfants en croyant que nous sommes toujours sous le contrôle des étrangers qui nous disent ce que nous devons faire. Et maintenant, pour revenir à la situation du Mali,
en guise de conclusion,
ça montre la fragilité des États africains. Et c'est un exemple aussi pour notre pays, pour que nous puissions construire dans notre pays un État moderne d'indépendance. Il faut travailler sur la refondation de l'État congolais, sur ses trois piliers, la magistrature, l'armée, le fonds de sécurité et l'administration publique. Le cas du Mali montre qu'il y a eu des dysfonctionnements dans le système de la défense du pays, de l'armée, le fonds de sécurité, et étant du fait que le gouvernement en place n'a pas pu faire face de manière correcte et efficace à une rébellion qui venait d'arriver, et voilà, le régime de Manitoba est tombé à cause de la fragilité de l'État malien.
Merci, professeur. Professeur Pierre Virgence, en guise de conclusion, qu'est-ce que les auditeurs et internautes qui sont en train de vous suivre en ce moment peuvent retenir de ces débats?
Ils peuvent retenir qu'au Sénégal, je dirais, la démocratie brille toujours, alors qu'on a cru à un moment donné qu'elle risquait de s'éteindre, que le Mali est en train de connaître des difficultés et qu'effectivement chaque pays connaît des hauts et des bas et que c'est la résistance de la société civile et des institutions qui permet de défendre la démocratie et ce n'est ni la lâcheté, ni la soumission, ni non plus la croyance dans la communauté internationale qui fabrique la démocratie.
Merci, professeur. Professeur Mampouya, juste un mot pour conclure.
Je conclurai tout simplement sur notre responsabilité nationale, sur la bonne marche, sur la mauvaise marche des choses chez nous. Nous ne devons donc pas chercher de bouc émissaire, mais en même temps, nous devons partir de l'exemple sénégalais pour dire que la démocratie va être l'œuvre commune que nous allons mettre en place,
merci,
nous-mêmes, nous tous.
C'est
pas compétent, tout le monde doit y mettre du sien, aussi bien ceux qui vont avoir bien fait leur boulot.
Merci, Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Restez branchés, branchés sur la radio de la paix. Au revoir. Thank you.